que en Europe on appelle l'opposition et ça porte le nom de Mouvement Vert et en fait dirigé par Moussavi et Kajoubi, qui sont deux membres d'une organisation qui s'appelle Conseil de discernement. Ce Conseil de discernement décide de toutes les politiques iraniennes dans tous les domaines, établit les lois qui seront après votées par le Parlement. En fait, le Parlement, les ministres, le président, le guide sont en fait des éléments d'un appareil visible et dans le secret, il y a des gens qui décident toutes les politiques dans tous les domaines et Moussavi et Kajoubi en font partie depuis près de 22 ans. Ce sont les vrais dirigeants. Aujourd'hui, ils se recyclent en opposants et comme il n'y a pas vraiment d'opposition, personne en Iran ne peut suivre des gens du pouvoir qui font en plus, ils ont le toupet de se faire passer pour des opposants, ils ont besoin de mettre en scène des affrontements, des choses violentes pour donner à croire que tout cela est vrai. Parallèlement à ça, l'ensemble des choses qu'ils ont fait, cette opposition, par exemple, ne s'exprime jamais sur le conflit nucléaire, sur les sanctions, sur les pendaisons. L'ensemble de ces choses-là a fait que le peuple a pris ses distances. Le peuple, déjà, il détestait le pouvoir, mais le peuple qui travaillait pour le régime, comme les miliciens, comme les militaires. Aujourd'hui, le régime est seul. Il a peur de s'effondrer. Donc, il a organisé lui-même une journée révolutionnaire au cas où les gens s'y rejoindraient, ils diraient « Regardez, ils sont avec Moussavi, ils sont avec Kajoubi ». Il a fait ça hier et aujourd'hui, les députés renchérissent par-dessus en disant « Oh, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait de chez nous ?» Et cela, alors que si c'était une vraie révolution, que le régime n'a pas reconnu hier, aujourd'hui, ces députés n'en parleraient pas. Si ces députés en parlent, c'est pour donner un peu de... c'est pour cautionner le récit qui a été raconté hier. J'ai vu que même le chef de pouvoir judiciaire, le porte-parole du pouvoir judiciaire a dit il faut voir qui était derrière les incidents du 14 février, alors que l'État ne l'avait pas reconnu. Donc c'est tout un système pour dire que tous les Iraniens, même les mécontents, sont pour le régime, pour les éléments issus du régime et non pas pour un changement. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit, et ce que je dis, c'est pas mes fantasmes personnels. Tous les Iraniens que nous connaissons en Iran, personne n'a vu cette grande révolution qui a eu lieu hier. Et tout le monde m'a dit, c'est des images d'archives, il faut bien regarder. D'ailleurs, j'ai passé toute la soirée à les télécharger, à les mettre en très grand et les passer en ralenti. Effectivement, quand on les passe en ralenti, on coupe le son, parce que le son, vous savez, vous êtes journaliste, vous savez que le son a une importance importante dans les images qu'on voit. Quand on coupe le son et on passe en ralenti, on voit les gens en chemise courte, ce qui est impossible parce qu'il faisait hier 2 degrés à Téhéran. Et franchement, quand il fait 2 degrés, on ne se balade pas en chemisette. Et ça, je l'ai vu sur toutes les images, ils sont en chemisette, ou alors le ciel est bleu. C'est un ciel de temps estival, alors qu'hier, le temps était nuageux à Téhéran. À Machad, où on a vu des vidéos ensoleillées, le temps était très couvert. Il faut vraiment regarder les images et ne pas se laisser berner par ces histoires-là.
Selon vous, c'est le régime qui met en scène ces révolutions ?
Sa propre opposition. Il a fait la même chose avec Khatami. Vous savez, Khatami a été présenté comme un grand réformateur, un opposant. C'est quand même le type qui était chargé de la propagande de l'armée pendant la guerre Iran-Irak. Il a été à l'origine de la création des commandos pour tuer des opposants. Il y a même eu un article là-dessus en 1985 dans Libération. On le voyait, jeune mollah, à la tribune de ce même assemblée pour appeler à tuer tous les opposants à l'étranger, on a perdu beaucoup de nos amis, beaucoup d'opposants, comme ça, qui ont été coupés en morceaux dans leur propre appartement. Et ça, ça, c'est la méthode de la République islamique, tuer les gens chez eux pour que les autres sachent qu'on peut infiltrer facilement l'opposition, devenir amis des activistes pour les tuer chez eux. Aujourd'hui, on présente ce Khatami comme un type extraordinaire. Tout cela, c'est du cinéma. Le régime a prétendu qu'il avait été attaqué, qu'on voulait le tuer et tout. Il en a fait un héros, une victime. Il ne faut pas y croire. Ce même Karoubi que vous voyez aujourd'hui, victime de ses copains de l'Assemblée, il a été président de cette Assemblée où il appelait à ramasser les paraboles pour empêcher ces sons qui viennent de l'extérieur. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il le faisait en même temps qu'il voulait monter lui-même sa chaîne de télévision sur satellite. Il est aussi responsable de confiscation des biens des gens au début de la Révolution, mais il a tellement volé au sein de l'organisation chargée des biens confisqués qu'il a été viré du gouvernement de l'époque. Et Moussavi, il est responsable de la création des milices islamistes. Il a chapeauté l'exécution d'environ 20 000 prisonniers pendant 3 mois, il y a 20 ans, des prisonniers des Moudjahidines du peuple, ex-alliés de la Révolution, qui étaient devenus des éléments menaçants. C'est des gens qui ont vraiment un passé terrible. En France, personne ne veut fréquenter Le Pen parce qu'il dit des mots hors propos ou des mots choquants. Là, on a vraiment affaire à des assassins, donc il n'y a pas à les considérer comme des opposants.
Vous avez très certainement suivi, regardé avec attention ce qui s'est passé en Afrique du Nord, donc les révolutions tunisiennes, égyptiennes. Est-ce qu'elles peuvent être un exemple pour l'Iran ? Est-ce qu'il y a une révolution possible en Iran tout de même ?
Vous savez, le premier, je me souviens, au moment de la Tunisie, quand les gens étaient descendus dans la rue contre Ben Ali, qui était connu en Iran pour son effort contre l'islamisme, dans tous les forums, les gens ils disaient qu'ils sont devenus aussi fous que nous en 1979, et ils vont s'en mordre les doigts. Au moment de l'affaire égyptienne, pareil, et on n'a vu aucun Iranien descendre dans la rue spontanément, comme dans d'autres pays où il y a des musulmans, il y a eu ce mouvement en faveur des gens qui étaient quand même dans la rue avec beaucoup de foulards et qui demandaient le rétablissement des libertés. Je tiens à signaler que dans le cas égyptien, on ne l'a pas dit, ce rétablissement de liberté peut faire référence à l'annulation de l'amendement voté en 2007 qui interdit l'existence des partis politiques religieuses, donc les frères musulmans. Pour ma part, moi j'ai un regard géopolitique sur l'affaire. L'Afrique du Nord, c'est un des endroits les plus riches du monde en termes de pétrole et de gaz, et ces révolutions qui ont reçu le soutien des États-Unis sont arrivées dans les pays où, quand on regarde la carte de répartition des compagnies pétrolières, les Américains n'étaient vraiment très peu présents et le marché est tenu par des concurrents.
Pour revenir encore sur cette révolution, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un soulèvement populaire
Évidemment, nous le souhaitons. Mais vous savez, j'ai une émission qui est diffusée sur l'Iran par satellite et qui a beaucoup de gens qui l'écoutent. En fait, les gens qui l'écoutent par satellite, je ne peux pas connaître leur nom, mais je peux connaître le nom des gens qui nous écoutent par Internet. Et par Internet, on a environ 20% des IP existants en Iran. Et donc, c'est assez énorme. Mais en fait, le truc, c'est que nous disons, par exemple, nous avons appelé à boycotter cette manifestation parce que son propos n'était pas clair, parce que l'appel a été lancé par des gens du pouvoir et la manifestation allait cautionner ces personnages comme des chefs d'opposition. Mais le problème, c'est que même si les miliciens ont lâché le régime depuis 2 ans, si l'armée vient de lâcher, les gens ont très peur parce que le régime garde quand même ses cadres de base, les gens à haut niveau dans les services secrets, dans la police. Et en étant isolés, non pas unis, ce que tout le monde souhaite, tous les Iraniens restent des cibles potentielles. S'ils manifestent un peu, s'ils commencent à écrire des slogans, ils risquent d'être arrêtés. Cependant, il y a des choses qui ont commencé. Dans le nord de l'Iran, les gens couvrent les murs de slogans clairement anti-régime. Et si je vous dis le slogan, vous allez comprendre pourquoi c'est anti-régime. Et ce slogan, c'est « Vive le roi », en référence au fils du Shah, qui est extrêmement populaire en Iran. Mais les images, on les a. On ne veut pas les passer en France. On peut les passer parce qu'on attend que... on ne veut pas qu'il y ait une répression tout de suite sur, par exemple, la ville de Tabriz et Rezaie, où cela est arrivé, qui sont des villes importantes du pays. On veut que ça soit vraiment plus généralisé et que ça donne envie à d'autres gens de se joindre au mouvement et de commencer à écrire des slogans sur les murs qui vont donner de l'énergie aux habitants de la ville. Mais le grand problème, c'est que il y a 2 ans, les Iraniens sont descendus dans la rue par millions. Et à ce moment-là, les États-Unis ne leur ont pas apporté leur soutien parce que les slogans n'étaient pas dans le sens de rétablissement des droits islamiques et plutôt contre les droits islamiques. Et bon, les États-Unis, aujourd'hui, ils n'ont que des alliés islamistes dans le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Il n'y a pas eu de soutien et les gens ont été vraiment déçus et se disent aujourd'hui, si on descend dans la rue, si on laisse nos enfants sortir, ils vont se faire tuer, ils vont se faire tabasser et personne ne lèvera le petit doigt pour les sauver. Et aujourd'hui et hier, quand le régime a fait cette mise en scène, et par-dessus, les Américains, ils disent « Oh, c'est formidable, nous sommes derrière les réformes en Iran », ben, ça refroidit les gens. Donc c'est une grande déception pour nous. Mais en revanche, ce qu'il y a, c'est que les Américains peuvent apporter leur soutien aux réformes, et les mullahs peuvent faire leur mise en scène, mais le fond de problème ne change pas. Il y a d'énormes inégalités en Iran. Les mollahs ne veulent pas, ils sont en négociation avec les Américains pour garder un rôle dans l'avenir de l'État si cet État devient pro-américain. Et pour que cette négociation puisse réussir, ils supportent toutes les sanctions. Et ces sanctions ont aggravé la situation des Iraniens. Il y a 3 ans, avant le début des sanctions, 85% des Iraniens étaient sous le seuil de pauvreté, mais ils pouvaient manger du pain. Aujourd'hui, avec les sanctions, les prix des produits ont augmenté et la consommation du pain a baissé de 60%, c'est-à-dire que 60% des gens dont la seule chose qu'ils pouvaient manger était du pain ne peuvent pas le manger. Et une des choses qui me choque aussi dans les manifestations d'hier, c'est que ce peuple qui est ainsi humilié, affamé, et quand il a envie de bouger, on lui annonce des pendaisons, il y a des opposants dans la rue, et personne ne lance de slogan contre les mesures prises par le gouvernement, contre les pendaisons, et on se focalise sur le départ du guide suprême, un personnage qui n'a aucune fonction politique et dont le départ ne changera rien à l'État. Personne ne crie des slogans contre le programme nucléaire. C'est vraiment bidon. Et c'est ça, c'est ce genre de choses bidon qui vont énerver encore plus les gens avec les difficultés qui existent. Et je pense qu'on aura des mouvements de colère. Mais quand Tout cela dépend un peu aussi des étrangers, notamment des Américains. S'ils n'envoient pas les bons signaux, les gens n'auront pas envie d'aller se faire tuer.